Radio Canéo présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Me reprocher de ne pas avoir fait de bêtises maintenant, d'être une meilleure digne, cela ne te convient pas. Tu aurais voulu que je vive comme une femme qui ne pense qu'à elle-même, comme toi, égoïste. Non, mère, je ne demande pas cela, mais que vous soyez humaine, compréhensive, surtout devant les fautes d'un jeune adolescent. Et puis, à quoi bon parler de tout ça? Nous ne comprendrons jamais. Nous ne parlons pas le même langage. Plutôt, nous ne sommes pas du même monde. Nous sommes de deux mondes différents. Et je me dirigeais vers la sortie, soulagé de ce que j'avais dit. J'entendis derrière moi.
Tu me dédaignes. D'après toi, je ne comprends rien. Je suis incapable d'avoir une conversation avec toi,
je dis sans me retourner. Mais non, mère, mais non. Et sortait de la pièce. Soulagé. Je me disais que j'étais devenu un homme après cet entretien.
Je me demandais comment ils allaient réagir. Allaient-ils m'aider? Et s'ils ne le faisaient pas, que ferais-je? Je décidais qu'avec leur aide ou non, je partirais de chez eux. J'étais décidé, je me sentais bien, fort, ferme, fier. J'allais les retrouver au salon. Prenaient leur petit déjeuner, je m'assis à côté d'eux. Je me disais que quoi qu'ils disent maintenant, je leur répondrais en adulte. Après ce que j'avais dit hier au soir, ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que j'agisse autrement. Je leur dis bonjour et me servis. Mon père me dit, tu as trouvé un appartement? Non, père. As-tu l'intention de chercher? Oui, père. Bien. J'ai décidé avec ta mère, c'était que de te payer un petit studio, mais un tout petit. Cela doit suffire pour un homme. J'étais surpris et lui dis, merci. Ma mère me dit, tu vois, nous ne sommes pas des monstres. Il fallait toujours qu'elle exagérât et dise des choses pour vous abaisser et la monter. Ce devait toujours être elle qui devait avoir le bon rôle. Que répondre à ce qu'elle venait de dire? Je dis tout simplement, merci mère. Je savais qu'entre elle et moi, un fossé s'était creusé. En plus de ma fugue, je l'avais traitée en mère indigne. Elle me verrait désormais en fils ingrat, sans corps, qui déteste sa mère. Et de cette idée qu'elle s'était inventée elle-même, elle en souffrira toujours comme une mère qui aurait perdu son enfant ou aurait enfanté un monstre qui en voudrait à sa vie et qui refuserait de l'aimer, elle, la mère modèle, sans reproche. Malgré moi, je me sentais coupable de la façon dont elle me voyait. J'aurais voulu lui expliquer pour lui dire qu'elle se trompait, mais c'était impossible. Je la sentais murée dans ses idées. Deux jours plus tard, mon père me dit qu'il avait trouvé un petit studio à vendre. Va le voir, et si te convient, je te l'achète. Je m'y rendais. Il n'était pas très loin d'où nous habitions, dans un immeuble neuf, cossu, au premier étage. Un petit couloir d'entrée avec placard, une grande pièce avec coin cuisine et salle d'eau. C'était pas très grand, mais clair et neuf. Je le voulus. Mon père alla chez le notaire avec moi et donna le chèque.
sortant de chez le notaire tout en marchant. « Merci, père. » Puis il me dit, « Tu vois, je ne suis pas mauvais. Ta mère a son caractère aussi, à elle. C'est pas, elle n'est pas facile, mais contrairement à ce que tu crois, elle t'aime bien. » « Je le sais, père. Moi aussi, mais n'est pas facile et ni compréhensible avec les autres. Je suis heureux que tu veuilles vivre d'une façon indépendante de nous. Mais si tu as des ennuis, viens nous voir. Je vous le promets, père. » Et 15 jours plus tard, j'emménageais. J'avais pris les meubles de ma chambre. Une fois les ferrues de l'emménagement finies, je me trouvais bien seul et il fallait que je pense à me préparer mon dîner. Quoi manger, quoi acheter. Je ne voulais pas trop dépenser et me disais qu'il fallait que je fasse des économies de peur de faire des dettes. Donc attention à ce que j'achetais, même pour mes aliments. J'achetais à une épicerie des œufs et des pâtes. La première nuit chez moi n'a pas été bonne. Je ne connaissais pas encore mon environnement et le moindre bruit, la moindre ombre me faisait peur. Puis, ma vie a repris, vie habituelle, travail, maison. Je ne savais pas pourquoi. Mais dès que j'avais fini mon travail, le soir, je rentrais immédiatement chez moi. Pourtant, je n'avais rien de spécial à y faire et personne ne m'attendait. J'étais libre, mais j'agissais comme si je ne l'étais pas. Puis, un soir, après le repas, je me dis « Pourquoi ne pas sortir ?» Alors je suis sorti. Cela me faisait tout drôle d'être dehors, pour rien, comme ça. J'allais vers les quais du Rhône. Il faisait nuit noire et pas chaud. Il n'y avait que quelques passants, dehors, qui marchaient vite. Moi, je voulais rencontrer quelqu'un, une personne pour sympathiser. Et qui avait les mêmes désirs que moi. Dans une petite rue qui donnait vers les quais, je croisais un jeune homme qui marchait les mains dans les poches, comme moi, sans se presser. Il était habillé simplement d'un costume plutôt jaune sombre, de taille moyenne, mince, les cheveux sombres qui frisaient un peu, un visage osseux, pas beau ni laid. Nous sommes croisés en nous regardant. Je me suis retourné, lui aussi. Il a fait quelques pas et est entré dans une allée des meubles. Je ne sais pourquoi. Je n'ai pas hésité. J'étais dans un état second et est entré dans l'allée. Là, je le retrouvais debout, les mains dans les poches, me dire « Déshabille-toi et monte-moi tes jambes. » Sans hésiter, je le fis, sans réfléchir. Il me regarda, tourna autour de moi. Regardez mes jambes. Je devais avoir l'air bête avec mon pantalon rabaissé, tombant sur mes chaussures. J'étais excité et cherchais à le toucher en tendant les mains. s'arrêta de tourner. Je lui dis d'une voix suppliante, « Viens !» Il me dit, « Rhabille-toi !» Je me suis rhabillé. Et nous sommes sortis. J'étais énervé. Il me disait que j'étais tombé sur un fou. Tout en marchant, il me parlait. Je vis chez un polo. Il livre du vin. Il est très fort et musclé. Il a 20 ans de plus que moi. J'aime ses jambes. Ce soir, on s'est disputé. Alors il est parti. Je l'aime comme un fou. Je me demandais comment on pouvait aimer un homme plus vieux que soi et qui soit d'une basse classe. Il me dit encore, je suis étudiant en médecine et j'ai quitté ma famille pour vivre avec lui. J'étais arrivé vers chez moi. Je suis arrivé. Tu me laisses entrer chez toi? Je ne veux pas rester seul. Bien, entre. Mon excitation revenait. Nous sommes entrés chez moi. Après avoir regardé, il me dit, c'est petit, mais c'est bien. Puis nous sommes assis, l'un en face de l'autre, sur des chaises. Puis nous sommes servis, je me suis servi des verres de jus de fruits. Avoir bu, il me dit, tu veux me montrer tes jambes? Je me dis que cela doit l'exciter. Je lui montrerai en plus autre chose. Je me levais et me déshabillais. Juste au moment où je mettais la main sur mon slip, il me dit, non, je ne veux pas voir cela. Il regarda bien mes jambes et dit, tu as une jambe plus mince que l'autre. Je rougissais. Rhabille-toi. Je lui dis, viens. Non. Je me rhabillais. Il me dit, j'ai une table à vendre. Mais je n'ai que la table à vendre. Ne me demande pas autre chose. Tu l'achètes juste par amitié pour moi. Je réfléchis et me dis qu'il veut de l'argent. Il ne veut rien me donner en échange. Pas la moindre caresse. Lui s'est rincé l'œil en regardant mes jambes, mais moi, j'ai eu droit à rien. Non, cela ne m'intéresse pas. Même pas pour me faire plaisir, je ne dis rien. Bien, eh bien je te quitte. Polo doit être de retour. Et il est parti. Je n'étais pas content, j'avais perdu ma soirée, mais cela m'avait excité. Désormais, tous les soirs, après dîner, j'allais sortir. Je cherchais la plupart du temps, je ne trouvais personne. Au début, j'allais une fois par semaine, le dimanche après-midi, chez mes parents. Ils me recevaient sans grand entrain et je voyais que ma vie passée ne m'intéressait plus. J'étais ailleurs. J'étais reçu, c'était tout juste si l'on m'observait à boire. Nous parlaient très peu. Moi, je n'avais pas grand-chose à leur dire sur ma vie. Ce que je faisais, je ne pouvais le leur dire. Et eux restaient discrets sur ce qu'ils faisaient. J'avais l'impression de les gêner. Alors, j'allais les voir plus qu'une fois tous les 15 jours. Puis, de temps en temps, je ne m'ennuyais pas et ne me manquais pas. Cela me gênait plutôt que de penser à mon passé. J'en avais un peu honte, et puis une page était tournée. La vie que je menais n'était pas formidable, mais j'étais plus libre. Je n'avais pas encore trouvé ce que je voulais, souhaitais, mais je cherchais toutes les nuits. J'avais oublié Charles et les autres, même Didier. À cette époque, était enfoui dans mon âme en sommeil. Plus je sortais, et plus j'avais des désirs. Et comme je ne trouvais personne pour les satisfaire, je masturbais énormément au lit. J'avais remarqué que ceux qui avaient les mêmes désirs que moi se rencontraient surtout aux alentours des pistières ou dans les pistières. Donc, instinctivement et malgré moi, moi aussi je tournais autour. Il y en avait plein le long des quais du Rhône. Tous les soirs, j'y allais par là-bas. Je ne voulais pas entrer dans les urinoirs car je trouvais que c'était sale. Je sentais mauvais et me demandais comment l'on pouvait faire des connaissances dans de tels lieux. La plupart du temps, je restais aux abords. Ceux qui faisaient comme moi étaient des gens d'un certain âge, l'air nerveux, les mains tremblantes et ayant des difficultés à rester en place. Ils ne me plaisaient pas du tout. J'avais honte de faire partie de ces êtres fantomatiques et d'avoir les mêmes goûts qu'eux. Il y avait un jeune homme, alors tous tournaient autour de lui. La plupart du temps, il regardait les gens avec dédain, et si on lui parlait, il faisait la grimace. Il regardait au loin et disait des fois « Fous-moi la paix ». Ce devaient être des jeunes gens qui devaient avoir les mêmes désirs que les autres, mais qui avaient honte d'appartenir à ce groupe, car ils se sentaient mieux que les autres, et les autres étaient indignes d'eux. J'essayais, moi aussi, pris par le désir d'un beau corps ou d'un visage agréable, délicieux, de m'approcher d'eux et d'essayer de leur parler. Mais ma timidité me gênait, leur façon d'être aussi, car ils se comportaient avec moi comme avec les autres. Pourtant, de temps en temps, j'arrivais en accoster un jaune moins dédaigneux. Un soir, j'en vois un sur le quai. Il était de taille moyenne, mince dans les 20 ans, cheveux blonds, tête ronde, agréable. Habillé d'un costume bon marché foncé. Il semblait moins zombie que les autres. Il approchait de lui. Il me dit « Bonjour, ça va ?»« Oui. » Il m'avait parlé, mais pas intimidé. Je pouvais continuer. « Tu veux qu'on aille quelque part ?»« Oui, mais pas trop loin, » me dit-il. « Non. » Je me sentais en confiance. Il semblait simple et calme. Alors, je l'ai mené chez moi. Une fois chez moi, sans préambule, puisque chacun savait ce qu'il voulait, je l'ai déshabillé gentiment. Il s'est laissé faire. En le déshabillant, je le caressais. Il avait la peau très douce et lisse. Juste quelques pois rouges sur le bas-ventre, un sexe pas très grand et mince. J'étais un peu déçu, car il était plus dodu que je ne le pensais. Ensuite, je me suis déshabillé et me suis mis sur lui pour l'embrasser et le caresser. Puis, me suis baissé pour le sucer. Au bout d'un moment, il s'est mis sur le ventre. Je lui ai caressé les fesses, qui étaient trop grosses à mon goût. Il me disait, « Tu ne me prends pas ?»« Non. » Il faut me mettre ta jute en moi pour me donner des forces. C'est bon ? Je lui dis. Non, je ne veux pas. J'ai jamais fait et je ne veux pas. Moi, mes parents sont concierges et je couche dans la même chambre qu'eux. J'entends ma mère qui se fait prendre par mon père. Mon père lui donne sa jute et moi aussi j'en veux. J'avais pitié de lui et me dis, pauvre gosse. D'entendre ses parents, cela l'a détraqué. Puis il me dit, « J'ai rencontré une fois deux hommes qui vivaient ensemble. Nous avons fait cela tous les trois. C'est rare, ça. » Je continuai à lui caresser les fesses et lui baiser le dos. J'avais envie, pour lui faire plaisir, car moi, je ne bandais plus de le faire jouir. Et oui, c'est souvent la même chose. Avant l'amour, j'avais envie. Une fois la personne prête à se donner à moi, je ne la désirais plus et je voulais vite en finir. Mais une fois qu'elle était partie, je la redésirais et repensais à ce que j'avais fait ou dû faire. Cela me faisait plus plaisir et jouir qu'avec la personne. Je le fis retourner et le fis jouir. Puis, nous nous sommes rhabillés. J'étais triste et j'avais pitié de lui. J'aurais voulu faire quelque chose pour lui, mais il est parti. Avant de partir, nous étions donné rendez-vous pour la semaine prochaine. Je ne l'ai plus revu.
Un peu d'amour, un simple adieu.
Une autre nuit, je rencontrai un jeune homme, grand, mince, cheveux châtains, bien dans les 25 ans. Comme lui non plus ne ressemblait pas à un fantôme, je demandai s'il voulait venir avec moi. Il accepta. En allant vers chez moi, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a comme tête bizarre ? Je n'oserais jamais aller avec des gens pareils. J'aurais trop peur de me faire attaquer. » Puis il me dit « Je vais me marier en fin de semaine. » J'étais surpris, je lui dis « Ah, oui, j'aime aussi les femmes. Je ne peux pas me passer de faire l'amour avec les hommes. À mon avis, nous sommes tous comme ça, tous homo. Mais ceux qui restent à 100% sont des PD. » J'étais d'accord avec ce qu'il venait de dire. Une fois chez moi, que nous soyons déshabillés, couchés sur le lit nu, il était grand, mince, lisse, avec un petit sexe bien fait. J'étais sur lui, il me demanda « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Je rougis et lui dis « Je verrai », il me dit, suivant l'inspiration. Je me mis à le caresser et le sucer. Au bout d'un moment, je jouis et n'ai eu plus du tout envie. D'habitude, je continuais et ne disais rien. Mais je ne sais pourquoi, je lui dis « Je n'ai plus envie » et me levais. Il n'était pas content. « Tu es égoïste, toi. Tu me laisses comme ça. Tu m'en veux ? Non, on va pas se battre. » Et il se leva. Et nous nous sommes rhabillés. Et avant de partir, il me dit, surtout si tu me vois avec ma femme, ne dis rien. Oui, bien sûr. Et je ne l'ai plus jamais revue. Ces quelques rencontres m'apprenaient la vie et la déchéance sexuelle des gens, ces hommes seuls ou mariés qui recherchaient un plaisir à cacher, interdit, étaient plus à plaindre qu'à blâmer, adolescents, hommes de tout âge, fantomatiques dans la nuit, à la recherche de plaisir, d'amour, d'affection, qui souhaitaient souvent tous non éphémères, et trouvait que des rencontres décevantes, brèves et tristes, avec des gens comme eux, hors du monde, des lois, de tout. Moi, je ne voulais pas être comme eux, et je me sentais paria avec eux. Je rencontre toujours sur les quais un jeune homme blond, grand, mince, d'un côté un peu folle. C'est lui qui est venu vers moi et m'a dit « Alors, tu viens avec moi, que l'on se mélange ?» Je lui dis « Oui, je veux bien. » Viens. Et je le suivis dans un dédale de rue. À un moment, je ne savais même pas pourquoi. Je n'avais plus envie de le suivre, mais je le suivais malgré tout. Puis, nous sommes montés dans un hôtel minable et sale, montés jusqu'à la chambre par des escaliers étroits.
Voilà la première chambre.
C'était lugubre. Grande pièce avec un lit à deux places, des faits crasseux, un paravent, une table de nuit avec une lampe qui clignotait. Les murs étaient noirs, on n'y voyait presque rien malgré la petite lampe. Pendant qu'il enlevait sa veste, j'ai vu une chose qui m'a dégoûté, une bassine, de l'eau à terre où baignaient des bandes de tissu coton blanc remplis de merde. J'avais plus envie de rien et qu'une seule chose, partir. Le jeune me dit, tu as de l'argent? Non, j'en ai pas. C'était vrai, je sortais toujours la nuit sans argent. Il me poussa au milieu de la pièce. Tu n'as pas d'argent? Es-tu venu jusqu'ici? Mon Mac t'a vu monter. Il faudra que tu payes. J'étais rouge de honte. Avec des gestes brusques, il se met à me fouiller. Il trouve mon portefeuille, il l'ouvre. Vous pouvez chercher, il n'y a rien. Il prend ma carte d'identité et me dit, je la rendrai quand tu m'auras payé. On va chez toi. J'étais rouge de honte et j'avais peur, car ma carte d'identité avait l'adresse de mes parents. J'avais une peur bleu que mes parents sachent que j'avais été avec un gigolo à l'hôtel. Je n'avais qu'à obéir. Il me dit, regarde. Il souleva les manches de sa chemise. Tu vois, je me drogue et je suis mineur. Si tu te défiles, je te dénonce. Allez, on va chez toi. Nous sommes sortis de la pièce. J'étais penaud. En descendant les escaliers, j'avais peur du macro et l'autre qui avait ma carte d'identité. Une fois dehors, il me demanda « C'est loin ?»« Non. » Et il m'a suivi. À un tournant de rue, j'ai eu envie de le laisser. Mais je ne pouvais pas à cause de cette maudite carte d'identité. Au bout d'un moment, il grogna. « C'est loin ?»« Non. » Lorsque nous sommes arrivés, il me dit « Eh ben dis donc, c'est loin. » J'avais hâte d'en finir. Je le fais entrer dans l'allée. J'avais peur qu'on soit vu et qu'il fasse un scandale. Je le fais rentrer chez moi. J'ai laissé la porte ouverte, lui ai donné ce qu'il me demandait, m'a rendu ma carte d'identité et avant de partir, il m'a dit « C'est bien chez toi ». Puis, il est parti. Une fois parti, je me dis, pas par envie, mais par justice, qu'on aurait dû faire quelque chose puisque j'avais payé. C'est la première fois que j'allais dans un hôtel pareil et je me jurais de ne jamais y retourner. Quant aux putes, je me méfierais et désormais je demandais toujours s'il fallait payer ou non.
Et dans mes yeux, sous le ciel,
Le temps passait ainsi. Les quelques jeunes que je rencontrais et menais chez moi, que des jeunes, pas des personnes de 30 ans, restaient le temps d'un moment et ne revenaient plus. Je n'avais que des déceptions de ces rencontres nocturnes. La plupart du temps, j'étais déçu en les voyant nus. Et je n'avais plus de désir, car je croyais à chaque fois trouver quelque chose d'autre et je trouvais toujours le même corps. Je ne jouissais jamais avec eux, mais avant ou après. Pendant, je n'avais plus envie et j'étais dégoûté. Même quelquefois, cela me faisait rire de la stupidité que je trouvais dans les gestes. Qu'aurais-je aimé trouver dans ces corps, une fois découvert, une pureté, une douceur, quelque chose qui ne soit pas que des corps humains, quelque chose d'indéfinissable. Et sûrement aussi, c'était parce que je n'étais pas amoureux d'eux qui me faisaient voir leurs corps comme des corps et non comme des corps sublimés par l'amour. Car seul l'amour nous les montre autrement. Malgré ces déceptions, cette chasse m'apportait des choses de la vie, des êtres. Et, en continuant ma quête, je me disais que peut-être un jour, je trouverais. Un après-midi, j'allais voir une exposition de tableaux. Car auparavant, j'avais vu dans la vitrine de la galerie un tableau qui m'avait touché. Il représentait un jeune adolescent allongé sur un lit qui semblait nu, seulement recouvert par endroits de bouts de drap froissés. Le jeune semblait dormir. Il avait le visage de l'enfance, encore inconsciente, mais l'on voyait que c'en était plus un. Les cheveux blonds qui ondulent, la bouche pulpeuse et la peau crème très douce. Ce tableau était éclairé par une lumière savante, faite d'ombre et de clarté sur le corps du jeune homme. Une clarté qui semblait venir par les rayons de lune. Le tableau me troublait énormément. C'était ce que je souhaitais, l'innocence et la beauté. J'appréciais aussi beaucoup le talent du peintre qui avait si bien joué sur la lumière. Donc, en passant devant la galerie, je me dis que peut-être il avait fait d'autres tableaux tout aussi beaux. J'entrai dans la galerie pour me renseigner. petite femme sans âge vint vers moi.
Monsieur, vous désirez? J'aimerais savoir si le peintre qui a fait le tableau dans la vitrine en a fait d'autres, et peut-on les voir?
Mais monsieur, en ce moment, nous n'exposons que lui. Tous les tableaux que nous avons sont du même peintre.
Je peux les regarder?
Bien sûr, monsieur, ils sont là pour ça.
Et elle se retira.
Moi, j'allais voir les tableaux. Il y en avait de toutes sortes. Nature morte, paysages, portraits. Tout aussi très bien peints. Mais aucun ne me chavira comme celui de la vitrine. Malgré qu'ils étaient tout aussi bien faits, recherche de la lumière, les mêmes choix de couleurs, mais ce qu'ils représentaient ne me touchait moins. Je fus attristé de ce constat et me trouvai injuste. Et me dit, avec tristesse, c'était que nos goûts, même artistiques, qui devraient être quelque chose de plus noble et pur que les autres goûts, était malheureusement aiguillé très fortement et malgré soi par nos désirs physiques, sexuels. J'en fus attristé et me dis que mes choix artistiques étaient souillés par cela. Ce n'était pas que par pure esthétique que j'aimais certaines œuvres, mais aussi par désir primaire. Je pensais à tout cela en regardant ces belles toiles, mais malgré tout, je n'arrivais pas à les préférer aux tableaux de la vitrine. J'étais injuste. Après avoir regardé une nature morte, je me retournai. Et tombai nez à nez devant un jeune homme qui devait avoir 22 ans. Grand, mince, le visage allongé, un peu osseux, mais beau, un tout petit nez, de grands yeux profonds dorés, une grande bouche, des cheveux bruns, mi-longs, plaqués. Il portait un costume beige. J'étais, je ne sais pourquoi, mais j'étais ébloui par lui. Il me demanda, « Cela vous a plu ?» Oui, beaucoup. Je trouve que le peintre a beaucoup de talent. Merci, c'est moi le peintre. Ah, félicitations. Lequel des tableaux préférez-vous? Je rougis et lui dis, celui de la vitrine. Vous avez raison. Celui-là, c'est le plus beau. J'ai fait avec un plaisir immense. J'aime la façon dont vous avez joué avec la lumière sur son corps. Vous avez aimé? Cela me fait très plaisir, car j'ai mis beaucoup de temps pour trouver. Il regarda sa montre Gousset et me dit, « Il se fait tard, malheureusement la galerie va fermer. Il nous faut partir, à moins que vous désiriez acheter une de mes œuvres. » Je rougis et lui dis, « Malheureusement, j'ai pas les moyens. Pour le moment, je commence tout juste à travailler. » Il sourit et me dit, je comprends, mais cela ne nous empêche pas d'aller boire un verre. Oui, je veux bien. Et nous quittions la galerie. J'étais ébloui par lui. Son visage, son corps, ses gestes, tout me plaisait. Ses mouvements avaient une grâce inouïe. Je me disais, je le veux. Et en même temps, je suis très moche, je dois me contenter de le regarder seulement. Nous sommes entrés dans une brasserie.
très bien, madame.
Et avant de commander deux bocs de bière, j'aimais pas la bière, mais puisque c'était lui qui invitait, ils étaient ici l'un en face de l'autre, il me dit.
Vous êtes trop aimable, madame.
Moi aussi je débute, mais ce n'est pas facile. C'est tout juste si je gagne ma vie. Vous vivez seul ? Il me répondit. Oui, je ne cherche pas à voir quelqu'un. J'en ai assez bavé. Je lui dis, ah, les femmes, c'est pas facile. Après avoir bu, il me dit, c'est pas une femme, mais un ami. Ah, oui, j'aime les garçons et je ne m'en cache pas. Même mes parents le savent. J'étais stupéfait. Je dis malgré moi, si mes parents savaient cela, il me regardait bien, la bouche ouverte et me dit, parce que vous aussi. Je rougis et dis, oui,
les lieux publics.
Et moi, je suis obligé de me cacher, et ce n'est pas facile. En plus, on m'aime pas, je suis laid. Il baisse la tête et dit,
j'ai envie de partir à la
campagne. Ça, on peut dire que vous n'êtes pas beau. Je devins encore plus rouge et dis, c'est pas drôle, vous savez, surtout lorsqu'on n'aime que les beaux et jeunes garçons. Il me dit, pour me détendre, car je devais faire une drôle de tête, que j'étais trop triste, qu'il me trouvait pas si laid que ça, moi qui le trouvais si beau. Puis il me dit, le tableau que vous avez aimé, c'est un modèle, un de mes anciens petits amis. Vous avez de la chance, il me dit. Moi, les jeunes, j'en veux et j'en ai.
Juste un thé vert pour moi, comme d'habitude.
Ah oui, monsieur.
J'ai peut-être pas une belle gueule, mais tant que j'ai un beau cul, j'étais surpris par son cynisme.
Vous êtes trop aimable, Adélaïde.
Il me dit, bon, on s'en va. J'étais triste et je lui dis, on se reverra plus. Il hausse les épaules et me dit, bon, si tu veux venir me voir, voir mes tableaux, viens. Il se lève. Je lui demande ton adresse. Il soupire et me tendit de mauvaise grâce sa carte de visite. Merci. Je peux venir quand ? Je réfléchis et me dit, vendredi 20h. Je souris, j'étais heureux. Je lui dis, je m'appelle Pierre et moi Jean-Yves. Nous quittons la brasserie.
On ne devrait jamais fréquenter les lieux publics. Il y a toujours un raseur aux aguets.
Radio Canus a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime, dont c'était la 10e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, c'est